20h34 sur Transistor, on passe tout de suite à la culture. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa et bonsoir Myriam qui les rejoint.
Bonsoir, bonsoir Rémi.
Les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une valeur.
Léa, c'est toi qui commences, tu nous parles de Lyon?
Oui, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment à Lyon? De la danse, surtout, avec Maggie Marin sur tous les plans. Maggie Marin, c'est cette chorégraphe qui, dès 80, avec sa création Maybe, a fait un pied de nez au mouvement lisse et gracieux pour aller titiller une toute autre corde. En s'inspirant de Beckett, elle génère des corps grotesques, miséreux et en pleine déformation. Les corps sont couverts de boue et quelque chose d'apocalyptique en émane. La pièce est un scandale et un grand succès. En quelques années, elle devient un immense classique. Dans ses œuvres suivantes qu'elle produit à Créteil, l'artiste interroge les relations humaines, des pièces qui laissent place au silence et à la gêne juste le temps que le non-dit éclose. Les corps parlent et la danse se fait parfois théâtre. Jamais le geste n'est gratuit car il est chaque fois le signe d'une pensée en mouvement, pour paraphraser une thèse récemment écrite sur elle.
Et c'est une artiste qu'on remarque aussi pour son engagement politique, n'est-ce pas ?
Oui, Maggie Marin, c'est aussi cette artiste qui lève la voix, souvent, pour dire que la création exige du temps, des pauses, et n'est pas forcément bankable. À la marge de la Maison de la Danse, qu'elle n'hésite pas à attaquer, en 2014, elle fonde son propre centre de danse, Ramdam, à Sainte-Foy-les-Lyon. C'est dans ce laboratoire poétique et politique que sont mises sur pied les récentes créations.
Ok, et qu'est-ce qui se joue en ce moment ?
Jusqu'à hier soir se jouait sa dernière création, 2017, dont on attend avec impatience les prochaines représentations. Aussi, prenez vos places pour voir le désormais classique Maybe qui sera joué dans un mois. Et en attendant dans quelques jours, Ramdam nous propose non pas de la danse, mais du théâtre, en invitant la metteur en scène, Chantal Morel, qui nous propose avec sa dernière création d'entrer au pensionnat de Tübingen en compagnie des jeunes Schelling, Hegel et Oderlin. On attend avec une grande curiosité de voir en chair et sur scène exploser, dialectiquement ou non, les divergences de leur point de vue. Enfin bref, on aura sûrement cette année encore beaucoup d'occasions d'entendre parler de Ramdam et de Maggie Marin. Si ce teasing vous fait trembler d'impatience, commencez à déguster avec le micro de l'émission À Voix Nue sur France Culture. Ce micro donc qu'il offre à la Madone de la danse, je ne résiste d'ailleurs pas à la tentation d'y faire goûter vos oreilles. Non. Alors là, on n'attendait pas la virgule, ni la voix de Maggie Marin, qu'on n'a pas en régie. Eh bien qu'on n'a pas, mais c'est dommage, mais filez écouter ces 5 épisodes qui sont sur le site de France Culture. On reste en terre poétique maintenant parce qu'on a invité Myriam pour nous parler d'une revue qui vient de voir le jour à Lyon, L'Écharde. Alors j'aurais une première question à te poser Myriam, pourquoi ce nom d'Écharde?
Alors L'Écharde, pour le dire de manière un peu triviale, c'est cette petite épine, ce petit fragment du monde extérieur qui vient vous perturber dans vos activités routinières, bouleverser vos petites habitudes culturelles. C'est un fragment qui, comme cette petite revue de poésie, reviendrait périodiquement énerver la chair pour la réveiller. En fait, vous verrez bien dans cette revue que les formes et thèmes attendus en poésie sont renouvelés pour reconstruire votre vision de la poésie. L'apport pictural semble être l'une des spécificités de cette revue poétique. Ainsi, vous lirez des poèmes dessins qui vous emmèneront un peu plus loin que le calligramme, avec un humour dédramatisant la noirceur de la vie quotidienne. Par exemple, vous pourrez découvrir l'œuvre d'Élise Tual. Dans l'un de ses poèmes, Le Bain, figurant entre autres une baignoire, on peut lire « Le bain est cassé, marmonne comme un vieillard qui mâche du tabac parfumé à la mangue ». Vous pourrez lire des poèmes d'éminents poètes et poétesses, dont la première écharde, par exemple, Cécile Guivarche. Il y a aussi des tableaux à la publication inédite, tels que l'arracheur d'êtres de la jeune peintre Lily Zaza, qui est une réinterprétation contemporaine du tableau L'arracheur de dents de Théodore Rombaud.
Merci pour avoir dit brièvement en quoi consistait cette revue. Est-ce que tu peux maintenant nous donner quelques détails sur les coulisses de la création ? C'est qui en est à l'origine ?
Donc cette revue est fondée par deux poètes, Louis Pécou, ancien étudiant en lettres et philosophie, qui a notamment publié dans la revue Les Hommes sans épaules, et Alexandre Goutard, étudiant en lettres modernes, qui a par exemple fait paraître ses poèmes dans la revue Conséquences. Toutefois, ses fondateurs tiennent à rappeler que cette revue s'est créée autour d'un noyau d'amitié, au désir originel le plus humain, celui de s'exprimer, certes, mais avec une exigence et un univers à la fois commun et singulier. Et donc, loin de l'idéalisation poétique, la revue ne craint pas d'assumer une certaine négativité et contrebalance la noirceur du monde par l'expression poétique, comme dans cet extrait du poème Philoctère de Nicolas Jean, que vous retrouverez dans la première écharde. Je devais rompre avec ma vie ce qu'elle avait de plus obscur comme de plus lumineux, pour ressusciter l'enfant que l'ennemi étouffa en moi, lui prendre la main, l'emmener, là, au bord des falaises de l'âge, et me pencher vers lui pour lui dire « Voici ta demeure, un lit de cailloux, mais tout le ciel est à toi. »
On comprend donc toute cette nécessité d'écrire, s'exprimer à travers la poésie. Si on veut découvrir les poèmes de cette revue poétique lyonnaise, où est-ce qu'on peut se rendre ?
Alors sur internet, je vous invite non seulement à consulter leur page Facebook Revue Les Chardes, mais aussi leur page Ulule afin de les soutenir dans la construction de leurs projets ambitieux, et ce simplement en précommandant la revue au plus vite, étant donné qu'il reste moins d'une semaine pour récolter les fonds nécessaires à l'impression. Nous joindrons d'ailleurs les liens, et sur Transistor, vous aurez l'occasion, courant mars, d'en entendre un peu plus parler dans l'écume des pages.
Merci beaucoup Myriam, vous trouverez aussi le lien sur le site de l'émission sur Transistor.
Merci à vous.
Et du côté de la création plastique alors ?
Ben alors, du...
Et alors ?
By the way, du côté des arts plastiques, je vous avoue qu'à Lyon, on attend impatiemment les semaines prochaines où le Musée d'art contemporain de Lyon et l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne rouvriront leurs portes pour de nouvelles aventures ou de nouvelles expositions. Plus d'infos donc dans les prochains numéros. En attendant, on desserte un peu Lyon et son petit bulletin plus mince que jamais.
Et c'est qu'il y a quelque chose qui t'attire ailleurs ?
Eh oui, l'écho des sirènes parisiennes arrive jusqu'à nous et nous fait part d'une exposition étrangement confidentielle au vu de la célébrité internationale de l'artiste. Je parle d'Anselm Kiefer. Alors on se souvient de l'impressionnante rétrospective à Beaubourg. C'est là que je l'avais découvert et j'avais été très émue par cette faculté d'unir en un seul geste, ensemble, des fragments d'êtres microscopiques avec l'immensité des grands mythes ou de l'énorme cosmos, et ça sans avoir besoin de grandir l'une ou de rétrécir l'autre. Parce qu'il arrive à établir de véritables connexions tout à fait originales. Je me souviens de ces grandes toiles dans lesquelles il évoque cette Allemagne nazie qui a bercé ses parents, et où la lourdeur de ce passé est vraiment là, dans une peinture si épaisse qu'elle est presque une sculpture. Et ceci jouxte l'évocation de tout le fond mythique dont se nourrit cette idéologie avec des évocations de l'épée de Siegfried ou d'autres mythes germaniques. Et puis partout, cette grande forêt qui semble être un peu la matrice. Donc on a vraiment cette idée d'un passé qui hante et qui revient comme un mantra. Et en même temps, ce qui est adossé, c'est toujours l'idée que ce passé est incertain, tremblotant, toujours modifié par le prisme selon lequel on le regarde. C'est un peu comme un bout de formule magique dont on pourrait changer l'effet en inversant quelques lettres ou en le complétant différemment. Je me souviens particulièrement de ces vitrines qu'on aura pu ensuite retrouver au musée Rodin, vitrines dans lesquelles il fait tenir de très très fines plantes séchées et où il fait le rencontrer, comme un alchimiste, des métaux fondus, des poudres, et où les choses semblent à la fois préhistoriques et en même temps dans un équilibre très précaire.
Et est-ce qu'on retrouve ces procédés dans sa nouvelle exposition ?
Oui, on retrouve l'idée de la sédimentation, à même la toile, on retrouve l'idée de l'alchimie des métaux, mais un peu différemment. C'est peut-être même un nouveau cycle qui s'ouvre pour Anselm Kiefer avec cette exposition de la Galerie Pantin. Cette fois, sur ses toiles peintes, il fait couler du plomb. Ce dernier déforme, puis sèche, forme une croûte et alourdit les toiles presque d'une demi-tonne. Il forme alors des cratères brillants, des comètes écrasées derrière lesquelles on distingue encore, tout déformé, des paysages. Le travail de Kiefer semble prendre, je me perds, un tournant davantage abstrait et en même temps encore plus expressif. C'est comme si cette idée d'un passé au présent, cette idée d'une possible renaissance, d'une transformation à travers des processus poétiques et alchimiques, finalement, c'était tout entière ramenée dans un seul geste. Dans un, et là je cite l'artiste lui-même cité par les communiqués de presse, un tableau étant toujours le suivant, c'est un mouvement constant d'abolition de soi et de renaissance.
Et cette exposition, elle est dédiée à quelqu'un, n'est-ce pas ?
Oui, et ce quelqu'un en donne même le titre, pour Andrea Emo. C'est un philosophe italien sur lequel, je l'avoue, et j'en suis désolée Sarah, il est difficile d'avoir des informations, en tout cas en français ou en anglais. Mais en tout cas, ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est que les idées de mémoire et de cycle semblent pour lui aussi prédominantes. Ses aphorismes sont, semble-t-il, principalement composés de souvenirs, et l'auteur l'explique lui-même ainsi. Il n'y a pas de nouveauté, hormis dans le souvenir. Le nouveau naît à partir de nous, qui sommes le futur, si nous pouvons renoncer à celui-ci. On comprend donc comment Kiefer a pu s'y reconnaître. Dans ces traces laissées par le plomb, on a donc plus que jamais la marque d'une sorte d'artiste phénix qui continue de renaître de ses cendres mille fois à chaque seconde dans le scintillement d'un matériau éclaté sur une toile.
Et tu nous rappelles où c'est, jusque quand ?
C'est dans le magnifique hangar de la galerie Thaddeus Ropac, à Pantin, sur le RERE, jusqu'au 31 mai. Alors Sarah, tu nous avais parlé de la représentation de Macbeth avant les vacances. Macbeth, pardon. Tu nous avais promis un retour. Alors, qu'est-ce que ça donne ?
Oui, le retour du vol de cuillère. Eva, ne me regarde pas comme une sturbe de morue. Ne savais-tu pas qu'avant de voler les grands loulous, on se spécialisait dans le couvert ? Quoi de plus touchant qu'une cuillère triturant votre tasse dépareillée, remuant des poussières de thé, les souvenirs d'une terrasse de café, pardon, des marches, non d'église, mais d'un théâtre nommé Odéon.
Et à part une volée de marches où tu as pu voler une cuillère, qu'est-ce que tu as vu à l'Odéon ?
Correctif, je ne suis pas l'auteur, alas, de ce méfait. Je l'ai exigé, on m'a obéi, mouahaha. Mais je vous ai vu, je vous avais prévenu, une peau noire couverte de sang. Macbeth, ce vaillant guerrier devenu tyran boucher. Son château lui-même est réduit à la cuisine, carrelé de blanc et décoré de couteaux de boucher. Un abattoir où se déroule l'histoire. Les sorcières, elles, apparaissent sur ces mêmes carreaux et pourtant, nous voilà plongés dans une autre dimension, au carrefour entre l'horreur et le comique. Certains ou certaines, dis-je avec un petit clin d'œil appuyé en direction d'Eva, trouveraient grotesques ces sorcières à la tripaille gonflée, accouchant à moitié engrossées, accroupies telles des grenouilles déguenillées sur des seaux. Vous devinez, seaux bien étranges mixtures qui causèrent à Macbeth les rêves les plus fous et les désillusions les plus amères.
Un sacré décor. L'inquiétude en perspective, alors.
Mais pas seulement. Et c'est ce que j'ai trouvé de génial dans cette représentation dirigée par Stéphane Braunschweig, je le rappelle. De lointains souvenirs, non de cuillères, mais de cours d'anglais me revenaient, tandis que Macbeth trop puissant subissait d'autres revenants. Il paraît que c'est le côté génial de Shakespeare, d'entremêler horreur et rire si bien qu'aucun spectateur ne s'ennuie. Très bien rendu ici. On allait du frisson glacé à la belle secouade Thordeglin, en passant éventuellement par les frétillances érotiques. Et je pense à la scène fort peu frigide qui se déroule près du frigidaire, à même la table. Et aucun spectateur ne s'ennuie, même les handicapés, parce que les sourds ne m'entendent pas, mais la scénographie est spectaculaire. On est dans du théâtre, et pas n'importe lequel. Les aveugles, quant à eux, ils peuvent s'attendre à des dialogues aussi mémorables que Tarantino, comme le disent les pochettes sur ces films. Et les paralysés, bah, tout le monde partagera votre sort, puisqu'on est pétrifié dans son fauteuil. Et que nous reste-t-il ? Les muets. Bah écoutez, cela tombe bien, vous serez priés de vous taire une fois le rideau ouvert.
Pas que d'enthousiasme. Un dernier mot peut-être pour nous inciter à y aller. La représentation se passe jusqu'au 10 mars à l'Odéon, à Paris.
Ok, bah le monsieur de la billetterie est très gentil, il fait bon, les fauteuils sont confortables. Je plaisante comme d'habitude. Et d'après le metteur en scène, surtout, c'est le mot qui compte. Il faut savoir que, je cite, « le bien et le mal sont relatifs, l'humain et l'inhumain ne font qu'un, et nous sommes des funambules sur une ligne de crête qui s'appelle la vie. » C'est une citation qui a vraiment du sens lorsque l'on a la pièce en tête. Et les comédiens sont terribles. Ils incarnent vraiment des personnages d'encre et de papier sur scène. Donc, même à la fin, la tête de Macbeth, par exemple, vous surprend encore et vous glace et vous fascine, phrase à double sens, puisque le personnage transpire de la pièce jusqu'à la fin, vous hante autant qu'il est hanté. Mais il y a aussi une référence, surprise, du metteur en scène, que j'aime bien. Certaines âmes plus sensibles ont sursauté. Disons que cela justifierait le jeu de mots d'une décollation en rouge et noir.
Est-ce qu'on... Oui ?
Allez, encore une dernière actu pour ce journal de la culture.
Je ne sais plus si on a le temps ou pas. Alors, avant qu'on ait toutes ces chansons dans la tête et que tu fasses un scandale comme Stendhal, Sarah, je crois que tu avais quand même un petit message à nous faire passer.
Mais oui, je tiens à signaler que ce soir, la fameuse Lucille de Paris joue les réalisateurs pleins de mauvaise foi et les comédiens ratés sur la scène du Louvre en compagnie d'une troupe de théâtre fort charmante, fort rigolote et fort touchante. Et là, du coup, c'est malheureux, mais je ne peux pas expliciter davantage. Mais sachez que c'est vraiment génial et que je l'encourage à distance, Lucille. Voilà, je t'encourage à distance avec ta troupe de théâtre. Et j'en profite pour mentionner que bientôt, il y a un projet en Cantor Chute.
Et c'est sur ces encouragements que nous vous remercions, Léa et Sarah, pour ce journal de la culture et que nous passons immédiatement au sport avec toi, François-René. Bonsoir, rebonsoir.
Et rebonsoir, Rémi.